Bonjour, Barbara Marzari, je suis je travaille chez Sociable et je suis directrice des communications et stratégies d'engagement. Alors Sociable est une solution SaaS, une plateforme B2B pour les entreprises dédiées à la communication interne, à l'employé advocacy et au social selling. Donc aujourd'hui, on va parler aussi d'engagement des collaborateurs et notamment à travers les contenus éducatifs. Pourquoi les contenus éducatifs? Ce sont des contenus qui peuvent faire le buzz sur les réseaux sociaux, engagent les collaborateurs et pourquoi ils peuvent être fiers de les partager sur les réseaux sociaux. Et oui. Donc, c'est Mathieu Stéphanie, hein, donc entrepreneur, d'ailleurs podcasteur, si vous ne le connaissez pas. Il fait un podcast que personnellement, je trouve ça passionnant. Il interview pas mal de personnes. Son podcast s'appelle Do It Yourself. Alors, c'est des podcasts format hyper long. Hein, ça peut durer même 1h30, 2h. Donc, bon, si vous faites des grands trajets ou voitures ou en transport en commun, c'est bien. Mais en fait, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est que souvent, quand on fait des contenus, on se dit, voilà, mon contenu n'est pas visible, tout ça. Et donc, peut-être, c'est parce que les gens ne me suivent pas, j'ai pas assez de... Mais en fait, souvent, on doit se dire, ben, finalement, c'est peut-être parce que nous, on n'a pas eu les bons réflexes, parce qu'on n'est pas visible. Et donc voilà, c'est le changement de paradigme, le changement de perspective que je trouvais intéressant dans ce petit contenu que je voulais partager avec vous.
Et effectivement, ça rejoint une des questions qui a été posée sur comment faire connaître en fait son contenu éducatif, et je pense qu'on y reviendra pendant la table ronde. Merci beaucoup, Barbara. Alors ensuite, Mathilde, donc je vais te laisser te présenter.
Merci Bertie. Bonjour à tous. Donc moi c'est Mathilde Landron, je travaille chez Doctolib. Rapidement pour vous présenter l'entreprise, même si je pense que vous nous connaissez tous, surtout après ces deux dernières années. Donc Doctolib, pour vous, c'est l'endroit pour prendre rendez-vous avec vos professionnels de santé. Et pour nos clients, c'est le moyen pour eux de gagner du temps pour soigner les gens. Et qui du coup utilise notre plateforme. Moi, au sein de Doctolib, je suis Learning Program Manager. Alors, qu'est-ce que veut dire ce grand mot, ce grand terme? Je suis en charge de créer l'ensemble des formations qui sont à destination des salariés de Doctolib pour maintenir l'esprit entrepreneurial au sein de l'entreprise et donc sous divers formats, à la fois du présentiel, du digital. L'objectif, c'est de créer des vraies expériences de formation. Et un contenu que je vous partage aujourd'hui, c'est sur une plateforme qui s'appelle Welcome Originals. Peut-être que certains parmi vous connaissent Welcome to the Jungle, qui est l'entreprise de recrutement. Et donc, ils ont créé un nouveau produit sur la diffusion de contenu de formation. Et notamment un podcast qui m'a interpellée, on va dire, sur la sérendipité et comment on crée l'innovation de manière inattendue ou pas si inattendue que ça au travail et ailleurs.
Merci beaucoup Mathilde. Rémi, à toi la parole.
Oui, sur Napoléon, c'est pas une présentation. Alors enchanté. Donc moi c'est Rémi Mazuel, je suis comédien, auteur, metteur en scène et là on va se dire mais il s'est trompé de salle. Et en fait non, j'ai été donc ravi de travailler avec Bertie sur l'académie en tant que incarnation du travail en amont de toutes les personnes qu'on collaborait sur le projet. Et j'interviens aussi en entreprise auprès de différentes personnes qui ont besoin de se présenter à l'oral pour des team building ou pour du training, du média training. Voilà. Aujourd'hui, on est à l'ère de YouTube, donc on a énormément de YouTubeurs, on consomme énormément de vidéos de tutos avec énormément de force visuelle, montage, ça va dans tous les sens. Et là, c'est Henri Guimin, c'est un Suisse, un franco-suisse, qui a fait des vidéos dans les années 50-60. Et je suis tombé là-dessus et j'ai adoré. Il est derrière un bureau, il raconte pendant 1h30 des sujets historiques. Et juste à la force de sa passion, de sa voix et de sa technique de diction, il arrive à nous embarquer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des effets visuels, c'est important. Mais je trouvais ça intéressant comme contre-pied de montrer que finalement, quand on n'est pas comédien, on veut absolument rajouter des effets dans tous les sens. Et que finalement, travailler aussi sur l'expression orale, c'est un bon moyen aussi de communiquer. Voilà.
Tiffaine, du coup, je te redonne la parole.
Moi, c'est Tiffaine. Moi, le contenu que je voulais partager avec vous, c'est un épisode de mon podcast préféré qui s'appelle Transfert de Slate. Si vous ne connaissez pas vraiment, rentrez chez vous ce soir et écoutez des épisodes. C'est assez intéressant, c'est des histoires de vie. Moi, il y a un épisode qui m'a vraiment bouleversée. C'est l'épisode 25 de la saison 1 qui s'appelle « L'histoire d'un appel qui a changé une vie ». C'est une fille qui s'appelle Marine de Nicolas, qui est étudiante et qui se fait contacter en fait par un agent chinois. Et en fait, elle devient une star de pop en Chine. C'est une histoire incroyable. Et en fait, moi, l'apprentissage que j'ai eu de ce podcast, c'est plusieurs choses. La première, c'est suivre son instinct. Moi, ça résonne beaucoup chez moi. Je pense qu'il faut savoir écouter son corps, parfois plus que son esprit. Si d'ailleurs je peux faire un parallèle, moi, de passer de commerciale à formatrice, c'était quand même un parti pris, peut-être un risque, mais c'est mon corps qui m'a dit de le faire et je ne regrette pas du tout. Et deuxième apprentissage que j'ai eu de cet épisode, c'est la résilience aussi, parce que c'est une histoire de vie qui est un peu compliquée. Et puis le résultat, il est extrêmement positif et c'est très beau. Vous risquez de pleurer un petit peu à la fin. Voilà.
J'espère qu'on ne va pas trop pleurer quand même. Et du coup, pour finir, Tiffaine Duché, cette fois-ci, oui. Je te laisse te présenter.
Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Tiffaine Duché. Je travaille au sein de la société Teach on Mars. Donc, on est un éditeur de logiciels. On propose une plateforme de formation mobile first, donc, qui s'adresse principalement aux entreprises pour former leurs collaborateurs, mais de plus en plus aussi pour former leurs écosystèmes, donc, que ce soit leurs partenaires, même leurs clients finaux. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de grandes entreprises, mais aussi des toutes petites, et on est surpris tous les jours de la manière dont les entreprises justement utilisent du contenu éducatif de manière très différente sur des thématiques extrêmement larges. Et donc, c'était cette expérience-là aussi que je vais partager après à l'atelier. Au niveau du petit contenu avec lequel, enfin, que j'avais envie de partager ce matin, peut-être certains le connaissent, c'est des séries de podcasts qui s'appellent Vulgaire. C'est Marine Baousson qui fait ces podcasts, et c'est des podcasts de vulgarisation. Elle prend un sujet au hasard, ou que maintenant ses potes lui demandent en soirée, et elle va aller chercher sur Internet des faits, des chiffres, des éléments concrets pour expliquer cette thématique. Donc ça peut être historique, ça peut être il y a les 4 accords Toltec, ou il y a aussi Naruto, enfin voilà, c'est vraiment extrêmement large. Et pour ceux qui ont des enfants ou des petits-neveux, elle a créé des petits vulgaires, donc là, qui s'adresse aux enfants. Donc là, en voiture, c'est parfait. C'est un petit conseil aussi. Ce qui m'intéressait particulièrement aussi dans ces épisodes de vulgaire, en tout cas ce que je trouve génial, parce que moi, j'ai un passé de formatrice. Aujourd'hui, je suis plus sur des fonctions commerciales et marketing. J'utilise HubSpot tous les jours. mais dans mon passé de formatrice, ce qui m'intéresse vraiment dans la notion d'apprentissage, c'est comment on donne envie aux gens de se former sans qu'ils s'en rendent compte, sans que ça soit une contrainte, que ça devienne plutôt un plaisir et un automatisme. Et là, je trouve que dans ces épisodes de podcast, elle prend le parti humoristique et parfois très décalé. C'est un peu addictif, hein, vous verrez. Il y en a un sur Dirty Dancing. C'est ce parallèle-là de la vulgarisation humoristique que je trouve très intéressant et qui, je pense, a des recettes qu'on peut adapter dans nos métiers.
Merci beaucoup, Tiffaine. Effectivement, tu abordes un sujet hyper intéressant qui est comment est-ce qu'on engage, comment est-ce qu'on arrive à entraîner en fait nos audiences dans un dispositif de formation qui peut être plus ou moins long. Mais avant de venir un peu sur ce côté concret, comment est-ce que on crée un contenu éducatif qui soit performant, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les enjeux en fait derrière une stratégie de contenu éducatif. Donc, Tiffaine, tu en as un peu parlé avec HubSpot. Il y a cette notion de, effectivement, fidéliser ses audiences, les transformer en promoteurs. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres enjeux intéressants? Est-ce qu'on peut avoir d'autres objectifs en tête quand on crée une académie, quand on crée un contenu éducatif? Je ne sais pas si... quelqu'un souhaite répondre spontanément à quelque chose qui lui vient.
Bah, sinon, j'ai le micro.
J'allais dire, Tiffaine, étant donné que vous proposez ça à vos clients, qu'est-ce que les clients viennent chercher ?
Ce qui est intéressant par rapport à l'exemple qu'on a eu juste avant, nous, on crée des contenus éducatifs pour les collaborateurs, en fait. Donc, c'est pas pour faire de la lead gen. C'est vraiment pour que les collaborateurs puissent se former. Mais avec l'idée qu'en fait, ils vont devenir ambassadeurs de la marque et que par leur rayonnement, c'est-à-dire parce qu'ils en parlent à leurs collègues, à leurs pairs, dans leur réseau pro et perso, en fait, ils vont devenir ambassadeurs de la marque parce qu'ils ont été particulièrement formés sur la marque, qu'ils sont fiers de la marque et qu'ils sont... parfois, ils utilisent en fait notre application. Ils la trouvent tellement élégante, tellement complète... qu'un outil qui est fait pour se former eux, ils vont le montrer aussi parfois à leurs clients. On a des exemples de clients qui vont vraiment utiliser l'appli. Il y a toute une partie wall, animation de communauté et qui vont interagir en fait avec leurs clients. Donc c'est une autre manière d'aborder cette partie éducative en passant par le collaborateur qui devient premier ambassadeur de la marque. Et dans un autre exemple, ils utilisent aussi parfois leur cette application pour former directement leurs clients. Donc là, je pense par exemple dans le secteur bancaire, pour former sur le blanchiment d'argent, enfin pour éviter le blanchiment d'argent, pas pour former sur le blanchiment d'argent. donc là, ils peuvent avoir des contenus qu'ils vont proposer à leurs clients entreprises ou à leurs clients particuliers. Donc en fait, sur les enjeux, c'est moins sur le contenu que sur la manière dont on va adresser sa cible directe et indirecte en ricochet.
Et justement, sur donc principalement Teach on Mars, ça permet de former donc ses collaborateurs. Donc là, c'est une notion de marque employeur, en fait, j'imagine. Et est-ce que finalement, donc former les collaborateurs, c'est plus pour garder les collaborateurs au sein de l'entreprise, les faire évoluer, les fidéliser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion d'attirer des talents? Parce que, enfin, aujourd'hui, on sait tous, il y a quand même une grosse crise au niveau du recrutement. Donc, est-ce que finalement, la formation, c'est pas un levier pour attirer les talents et dire, voilà, chez nous, notre ADN, c'est vous former, vous faire évoluer. Donc, venez chez nous.
Il y a exactement ça. On travaille beaucoup sur des programmes d'onboarding, c'est-à-dire montrer aux futurs collaborateurs qu'il a fait le bon choix. Et là, on a des programmes, enfin, nos clients développent des programmes d'onboarding avant même que le collaborateur soit arrivé dans l'entreprise. Donc, par exemple, à J-10, si vous lui envoyez des contenus, pardon. Donc toute cette partie effectivement conforter le collaborateur dans son choix et lui montrer que c'est une entreprise qui forme, qui développe, qui participe à la performance. Et après dans la durée, il y a aussi tout le catalogue de formation qui sont mis à disposition et qui permettent d'aller toucher pas que le collaborateur mais aussi l'individu avec des contenus qui soient pas forcément des contenus métiers ou juste des contenus liés à la performance mais des contenus qui peuvent être liés au développement personnel par exemple ou aux soft skills et ou à des sujets RSE ou de développement durable par exemple qui vont plus toucher la personne en tant qu'individu et qui vont la conforter aussi par rapport à son choix d'entreprise, par rapport au sens, parce qu'effectivement la guerre des talents aussi elle est liée aujourd'hui au fait que les gens veulent faire un travail qui a du sens et veulent travailler dans une entreprise qui donne à avoir une visibilité sur leur entreprise à mission, etc. Et donc la formation est une voie certes RH, mais qui permet justement de positionner en fait et d'aider le collaborateur à grandir en tant qu'individu dans son entreprise et plus largement dans la société.
Mathilde, peut-être, je voyais que tu voulais réagir.
Oui, il y a quelque chose qui résonne énormément avec la culture qu'on développe chez Doctolib sur l'apprentissage. C'est aussi un enjeu d'employabilité, à la fois en interne et en externe. De plus en plus, en fait, il y a un besoin de mobilité interne. Et du coup, la formation, c'est à la fois pour fidéliser en interne et accompagner chacun à se développer et éviter un statu quo. Donc, au niveau aussi global, ça permet... d'être innovant, de s'adapter au changement et de garder en quelque sorte cette dynamique. On le sait, c'est dit de plus en plus, mais la compétence change énormément. Et donc la formation, plus on prend cette routine de se former, plus le changement paraît facile et les mouvements aussi.
Et j'ai un chiffre à ce propos-là. D'ici 85% des emplois de 2030 qui n'existeraient pas encore aujourd'hui. Donc ça en dit long sur la montée en compétences qu'il va falloir engranger d'ici 2030. Oui, Barbara, si tu veux compléter.
Tout à l'heure, tu demandais est-ce qu'il y a d'autres enjeux, en fait. Hein. Donc, il y a un enjeu, bien sûr, de montée en compétences des collaborateurs. Il y a aussi les enjeux donc, de l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Vous avez tous entendu parler du grand phénomène qui arrive des États-Unis, qui est la grande démission, la Great Resignation. Elle arrive en Europe dans des proportions moindres, mais finalement, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grande remise en question des valeurs en fait, du travail. Hein, et, juste une donnée, c'est une étude Ernst & Young qui est parue récemment, c'est que, en fait, dans la génération Z, 63% des personnes disent vouloir choisir leur emploi par rapport aux valeurs que l'entreprise véhicule et le fait que ces valeurs doivent absolument être alignées avec les valeurs personnelles que la personne ressent. Et seulement 30% des répondants a dit que le salaire est le driver qui fait choisir l'entreprise. Donc, en fait, et parmi ces valeurs, qu'est-ce qu'il y a finalement ? Ils ont regardé et les valeurs, ce sont justement la possibilité que dans une entreprise de grandir, de se former et de pouvoir avoir de nouvelles possibilités d'évolution, de carrière, etc. Quand je parle de grandir, c'est certes les compétences professionnelles, mais aussi en fait les intérêts personnels. Ça, c'est aussi un article qui est paru très récemment dans le Harvard Business Review qui recommande aux entreprises aussi de laisser aux collaborateurs et de leur donner l'opportunité de se former sur leur propre intérêt perso ou en tout cas de leur laisser le temps de faire en fait ce qu'ils ont envie de faire en dehors du travail. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ça a un coût pour l'entreprise, mais ça paye parce qu'en fait, le retour en investissement, c'est que le collaborateur qui a l'opportunité de suivre ses passions personnelles eh ben, en fait, et qui travaille pour une entreprise qui lui donne cette possibilité, mais il n'ira pas voir ailleurs. Donc, retenue de talents et moins de frais finalement pour former des nouveaux talents et donc de turnover en fait. Donc,
voilà. Tu veux compléter ?
Moi, ça résonne beaucoup ce que tu viens de dire, Barbara. J'ai la chance de travailler pour une entreprise qui a pris conscience de ça, à mon avis, il y a très longtemps. On a ce qu'ils appellent le Culture Code. C'est un peu la bible de la culture de HubSpot qui fait 60 pages que j'ai lues et qu'on conseille à tous nos candidats de lire. Moi, ce côté aussi... empouvoirment, empower vos candidats, enfin vos employés. Je pense que c'est hyper important de leur donner du sens aussi, du sens et leur faire confiance. Aujourd'hui, je pense qu'on le sait tous, on n'est plus des numéros. Les missions qu'on a, je pense qu'il faut vraiment qu'elles résonnent aussi pour nous en tant qu'humains, dans nos valeurs aussi en tant que personnes. Et donc du coup, pour du concret, moi je vois que chez HubSpot par exemple, moi j'ai pas à dire à quelle heure je vais commencer ma journée, à quelle heure je vais la finir. On a les vacances illimitées. Donc si demain, d'ailleurs ce sera le cas, mon avis vendredi, je vais sûrement poser ma journée. Voilà, j'ai pas besoin de compter le nombre de jours que je vais prendre à l'année. Et tout ça, je pense que c'est important parce que ça nous donne, en tout cas moi personnellement, ça me donne envie de donner encore plus parce qu'on me donne beaucoup, j'en suis consciente. Et aussi, on me fait confiance. Donc c'est une manière de responsabiliser aussi ses employés. Moi, j'ai pas d'ado, mais je pense que c'est un peu le même principe quand on a un adolescent, c'est de dire bon bah je te donne ça, je vais pas te donner ça, mais c'est un peu une relation de win-win. On est tous les deux gagnants dans l'histoire. Et en tout cas, je pense que ça fonctionne très bien.
J'avais un autre sujet effectivement qui me semblait important d'aborder, enfin justement pour rentrer un peu plus dans le concret puisque vous êtes tous finalement des producteurs de contenu éducatif, c'était de savoir un peu quels sont les bons formats, quelles sont les best practices, quels sont les bons tips en fait qu'on peut partager aujourd'hui pour savoir dans quoi se lancer. quelles sont un peu, selon vous, les best practices? Comment est-ce qu'on, si demain notre assemblée a envie de lancer première formation, premier contenu éducatif, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui est le plus attendu?
Moi, je veux bien prendre la parole. Je dirais qu'il y a trois niveaux, en fait. Déjà, il n'y a pas un monde tout noir ou tout blanc, on fait bien ou on ne fait pas bien. Je trouve que ça s'est beaucoup démocratisé, la manière dont on faisait des formations. Moi, dans une vie antérieure, j'ai fait des modules e-learning avec voilà, des cahiers des charges un peu stricts et qui ne donnaient pas des résultats, d'ailleurs, très enthousiasmants. Aujourd'hui, il y a vraiment une diversité de contenus que je résumerais peut-être en trois niveaux. Il y a le contenu qui va vraiment être créé par l'entreprise et qui va être un contenu qualitatif parce qu'il est brandé, il va être assez élégant, assez puissant même dans le fond, etc. De plus en plus, donc ça c'est le contenu, on va dire, de première catégorie. Ensuite, on observe, là par exemple, on avait fait un webinar avec Clarins qui faisait des learning stories. Donc en fait, ils prennent des formats issus des réseaux sociaux et ils les transposent dans un modèle pédagogique. Donc là, on est un format un peu aussi hybride entre de la formation corporate, on va dire, et un contenu beaucoup plus léger. Et puis la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le user-generated content. Donc c'est là, c'est s'appuyer sur sa communauté pour créer justement du contenu, mais qu'il va falloir un petit peu modérer, parce que si c'est dans une application corporate, ben on peut quand même pas se permettre de dégrader l'image de la marque. Donc il va falloir un peu encadrer tout ça. Et nous, chez Teach on Mars, on accompagne beaucoup nos clients sur cette partie-là. Parce que déjà, ça fait moins de travail pour les équipes formation si tout le monde se met à créer du contenu. C'est un contenu qui est d'une autre nature aussi, qui va avoir une vision plus bottom-up que top-down, en fait. Et puis qui va révéler des trésors d'originalité auxquels peut-être que les gens dans les services formation n'y avaient pas pensé. Donc il y a aussi toute cette partie user-generated content qui me paraît hyper intéressante parce qu'elle mixe le pouvoir de la communauté. Les gens peuvent réagir, donc peuvent contribuer, peuvent mettre une vidéo, une photo, un commentaire, un texte, parfois même des retours d'expérience sous forme de témoignages écrits. Ça peut être vraiment très large. Donc voilà, je verrais bien ces trois types de contenu. En tout cas, c'est ce qu'on observe chez nos clients.
Et juste concrètement, sur ton dernier point, est-ce que tu peux expliquer en gros c'est quoi ? C'est tu vas mettre une problématique sur un espèce de wall accessible à toutes les équipes et puis les gens vont partager leurs propres réponses
C'est ça. Donc, une application Teach on Mars, en fait, il y a une partie wall, donc qui est un newsfeed, en fait, où on peut poster des articles. Donc, c'est uniquement les administrateurs qui peuvent créer les articles. C'est pas un réseau social où chacun peut poster une photo. Et on a une partie catalogue de formation où là, on a vraiment une arborescence avec toutes les formations organisées par thématique et par catégorie. Mais dans le wall, vous pouvez créer donc un article qui peut être sous forme de vidéos, de textes, même de liens externes. Et là, vous pouvez inviter la communauté à réagir, donc avec des commentaires, des likes, des partages. Vous pouvez mentionner des collègues, etc. Et vous pouvez lancer des challenges. Donc, par exemple, dans le retail, ça va être, racontez-nous, là, dans le cadre du dernier, de la dernière sortie du produit, racontez-nous votre belle histoire avec un client. Ou tiens, c'est la fête des mères, vous êtes vendeuse chez Sephora, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ou ce genre de choses. Donc et là les personnes peuvent réagir avec des petites vidéos, avec des photos, montrer des exemples concrets de ce qu'ils ont fait en boutique par exemple. Voilà, ou alors ça peut être plus profond avec vraiment un retour d'expérience plus approfondi avec du texte, etc.
OK. Oui, je voudrais juste rebondir, je trouve ça super intéressant, parce qu'on parle beaucoup ici de formation, disons, top-down, mais la grande tendance, c'est aussi justement de laisser la parole aux personnes qui font. Donc aussi laisser la possibilité aux collaborateurs de transmettre leur savoir. Je pense notamment à tous les collaborateurs de terrain, qui en fait peuvent raconter comment on fait le know-how, comment on fait, tu parlais de magasin, mais ça peut être aussi sur une ligne de montage ou sur un chantier, peu importe, mais ça crée vraiment une culture d'entreprise parce que ça fait un partage de connaissances communes qui intéresse. C'est quelque chose, moi, je travaillais avant chez un constructeur automobile où il y a multitude de métiers, de l'ouvrier en usine, l'ingénieur, le designer, le vendeur, et les personnes sont intéressés, veulent savoir comment ça se passe dans les autres milieux. Et ça crée vraiment une culture d'entreprise et il y a une vraie transmission de savoir. Donc oui, et l'authenticité aussi. Tout le monde sait que quand un contenu est fait par la personne qui fait les choses, est beaucoup plus crédible, bien évidemment, qu'un contenu, disons, qui est top down.
Alors, peut-être juste avant, Rémi, je crois que Mathilde voulait juste rebondir sur le sujet d'avant et après, on va effectivement aborder cette question importante d'incarner les contenus éducatifs.
Oui, un des tips sur la partie vraiment par quoi je commence, je dirais que la première étape, c'est de connaître son audience, aller la voir. Et presque l'indispensable, c'est de comprendre comment ils apprennent au quotidien et de quoi ils ont besoin. C'est une certitude qu'on a chez Doctolib, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on monte toutes nos formations. Et pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, un des partis pris que j'ai personnellement sur la formation, c'est qu'elle doit, dans un certain sens, être sociale et être collaborative, pardon. C'est ce qui me semble vraiment hyper important dans l'aspect expérientiel, c'est justement, on n'est plus dans du top-down, on est vraiment dans le faciliter justement la création de ces expériences.
Et du coup, effectivement, Rémi, peut-être pour réagir sur cette notion de comment est-ce que tu incarnes, comment est-ce que tu humanises un contenu éducatif pour engager finalement les audiences et leur permettre, en l'occurrence, nous, notre certification donc, dans laquelle Rémi a joué, dure 8 heures.
Désolée à tous ceux qui m'ont supporté pendant 8 heures.
Voilà, mais apparemment, Rémi est très supportable, donc peut-être que tu peux nous partager tes tips.
Oui, alors déjà, je souscris à tout ce qui a été dit, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la notion de partage, de rapport. En fait, philosophiquement, si on va un peu plus haut, c'est l'idée finalement que les académies ont une volonté d'être des ouvertures, pour créer de l'échange et du partage entre les différentes personnes qui collaborent dedans. Et je pense que c'est fondamental philosophiquement sur la manière d'aborder derrière sa propre académie. C'est que je pense toujours que la connaissance, vous en êtes porteur, vous vous adressez à quelqu'un qui ne l'a pas, et donc l'académie doit être un pont. Et on a tendance à toujours partir de notre connaissance, parce que c'est ce qu'on maîtrise, pour aller vers la personne à qui on s'adresse. Et je pense qu'il faut plutôt faire l'inverse. Il faut toujours prendre le plus petit dénominateur commun. Je prends un exemple concret. Tout à l'heure, Tiffaine, tu nous as fait une super présentation et 98% des gens connaissent HubSpot. Néanmoins, tu as réexpliqué quand même ce qu'était HubSpot. Et je pense que c'est ça l'idée fondamentale, c'est qu'il y a une personne dans la salle qui pourrait ne pas connaître. C'est à partir d'elle qu'il faut partir et faire une montée en puissance progressive dans l'académie pour qu'en fait, on ne laisse jamais personne de côté parce que l'idée, c'est de faire de l'échange. La personne qui connaît HubSpot, elle sera ravie d'avoir un rappel et de pouvoir échanger avec la personne dont elle voit qu'elle connaît moins. Enfin, en tout cas, je pense que voilà, de ce point de vue-là, déjà, je trouve que c'est fondamental. Et d'ailleurs, moi, dans mes pièces, petite encarte, mais j'ai deux pièces sur des sujets historiques. Et nous, la volonté avec... j'ai écrit une pièce, une autre, je l'ai mis en scène. Avec l'autre auteur, on avait comme volonté d'être très rigoureux historiquement, mais on voulait se focaliser sur le fait que tout le monde, qu'il ait une appétence naturelle ou pas pour le sujet, soit intéressé au départ. Donc, le début de la pièce commence avec des choses très simples et on n'est pas tout de suite à partir du principe que la personne va être intéressée et connaît. Et progressivement, on monte comme ça tout doucement. Voilà, bon, pardon, c'était une parenthèse. Et donc, du coup, oui, sur l'humanisation, je pense que... Et donc, je reviens aussi au théâtre, mais globalement, je pense que les personnes qui nous marquent le plus sont celles qui nous procurent des émotions. Et à partir de là, plus on est passionné, et plus en fait on est vecteur. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on était sur les bancs des écoles, mais les profs qui nous ont le plus marqués, c'est souvent ceux qui étaient les plus passionnés par leur matière. Voilà. Ou nous, on aimait la matière, mais moi, je détestais les maths. J'ai eu un prof de maths à un moment, et il m'a donné l'envie de faire des maths. Quoi. Ça a duré un an, mais bon. C'était super quand même. Et du coup, en effet, sur l'idée de créer des vidéos, il y a le point sur le fait d'incarner une voix. Parce que, en effet, vous pouvez partir du principe qu'un propos peut être de manière intellectuelle passionnant. S'il n'est pas incarné par une personne physique, personne ne l'écoutera. Vous pouvez avoir le propos le plus pertinent du monde. L'important, c'est le transfert humain parce qu'on est des animaux sociaux et que c'est à travers les échanges C'est pour ça, encore une fois, l'idée d'échange et de partage, parce que je pense que c'est profondément à travers ça que nous, on est connectés. Quelqu'un qui va nous parler pendant une heure d'un propos intéressant, mais qui va le faire avec aucune flamme humaine, ça va être beaucoup plus dur de capter l'attention des personnes. Et une deuxième chose, peut-être, j'avance peut-être sur les autres propos, mais il me paraît important que vous soyez sensible au format que vous allez utiliser. Parce que je pense que la force, c'est de s'adapter au format. Si vous êtes sur un format vidéo, n'oubliez jamais que les personnes vont commencer par vous voir avant de vous écouter. Là, par exemple, on est en physique. Eh bien, il faut exploiter le format physique en vous faisant participer. Il faut essayer d'aller chercher les particularités de votre format. Ce que tu as fait tout à l'heure en demandant, en levant la main, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en vidéo, qu'on ne peut pas faire en podcast. Si vous faites un podcast, il faut travailler évidemment sur la voix, sur les rythmes sonores. Et si vous êtes sur la vidéo, pensez bien à l'arrière-plan. Parce qu'il y a une personne sur deux qui va regarder la vidéo en coupant le son. Et voilà, donc c'est bon. Sur les formats, pensez-y, parce que ça joue aussi, ça va enrichir votre contenu.
Tiffaine, ouais, tu veux réagir?
C'est extrêmement intéressant tout ce dont tu as parlé. Et justement, moi, j'aimerais rebondir sur un point quand tu parlais justement du format à utiliser. Typiquement pour Spot Academy France, on a testé plusieurs types de formats. Le sous-titre en français sur des vidéos en anglais. Et après, avec une voix off, que des slides et une voix off. Et autant vous dire que c'était pas les meilleurs résultats. Et c'est vrai que depuis qu'on a deux personnes, je trouve que ça humanise beaucoup aussi la marque, l'aspect aussi pédagogique. Moi, je suis pas comédienne, donc ça a été un long travail aussi, je trouve, de développer son persona. Je pense que l'image que les gens doivent avoir de moi en regardant les certifications, c'est peut-être différent de qui je suis en vrai. Pour ceux qui connaissent l'Académie, on a un professeur aux US qui s'appelle Kyle, qui a un personnage, quelqu'un de très dynamique, alors qu'en fait, dans la vraie vie, il est extrêmement introverti, et c'est très étrange quand on le voit en vrai. Donc voilà, je pense que c'était un très bon point de se dire ça, c'est que, en effet, moi, je pense que le visuel, avec une personne qui humanise finalement encore une fois votre marque, c'est une très bonne perspective, et en tout cas moi c'est ce que je vous recommanderais de faire.
Et j'avais un dernier sujet, enfin pas un dernier sujet d'ailleurs, un avant-dernier sujet, notamment Mathilde, quand on s'est parlé la première fois, tu m'as un peu raconté ce que tu faisais chez Doctolib, et notamment comment est-ce que tu crées l'engagement auprès des équipes pour qu'ils suivent les formations de bout en bout, et tu m'as expliqué qu'il y avait pas mal de techniques que vous aviez mis en place, de communauté, de un peu leader dans chaque équipe. Est-ce que tu peux nous préciser un peu ça, parce que je trouve ça très intéressant, et la question a été posée tout à l'heure de comment est-ce qu'on se fait connaître, comment est-ce qu'on diffuse les contenus éducatifs qu'on crée et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils soient suivis de bout en bout. Je trouve que c'est un point important.
Merci Bertie. Bon, c'est un petit spoil sur mon retour d'expérience que j'aurai l'occasion de faire tout à l'heure. Sur comment on fait. Donc, Doctolib, on est 2700 collaborateurs. Donc, autant vous dire que la formation qui repose uniquement sur mes épaules, ce n'était pas possible. Et du coup, dans chaque département, on a ce qu'on appelle des learning leads, qui sont un peu des référents à l'échelle du département, qui vont être nos relais sur le terrain et avec qui on va avoir en fait c'est une passerelle, à la fois pour communiquer ce qu'on produit nous à l'échelle globale et à la fois eux être nos oreilles et nos antennes sur le terrain pour nous mettre pour nous tenir au courant sur quels sont les besoins qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc c'est un vrai travail de collaboration qu'on a avec eux sur la partie engagement et comment on fait en sorte que tous les collaborateurs suivent les formations et de manière continue et vraiment créer cette routine d'apprentissage. Chez Doctolib, on a décidé de mettre en place une heure de formation par semaine. Évidemment, c'est pas uniquement par ce biais-là qu'on apprend. Un des partis pris qu'on a, c'est que 70% de l'apprentissage il se fait sur le terrain et avec son manager, que 10% se fait en étant en contact de ses utilisateurs, des personnes avec qui on travaille, 10% avec nos pairs et 10% en formation plus formelle. Et du coup, chaque collaborateur a une heure pour cette formation formelle que je viens d'expliquer. Et donc, sur cette heure de formation, on a créé des produits de formation qui sont packagés. Donc, par exemple, on a lancé le Monthly Challenge. Ça va être 4 heures sur un mois, donc à raison de 1 heure par semaine, pour travailler sur une compétence en particulier. Et pendant ces 4 heures, ça va être des programmes qu'on appelle « blended », donc ça veut dire à la fois en présentiel et en digital, pour rythmer justement cette expérience. Moi, je crois énormément au fait que, bah, justement, plus les formats seront variés, plus les apprenants seront quelque part surpris hyper souvent et auront envie de découvrir la suite. Et également, on l'a appelé « challenge », puisque à la fin, il y a quand même un esprit de gamification pour engager l'audience et faire en sorte que les complétions augmentent. Et avec cette envie vraiment de progresser sur une thématique en particulier.
Alors, tout le monde veut réagir. Tiffaine,
Non, c'est hyper important cette notion d'engagement et je trouve que c'est là où il y a de la porosité entre le sujet du learning et le sujet du marketing parce qu'en fait on se rend compte qu'on va utiliser des recettes liées au marketing pour engager les gens dans leur formation. Donc nous on le voit, pour moi j'ai encore trois points sur lesquels on voit ça. Il y a la pertinence du contenu, il faut que le contenu soit extrêmement pertinent pour que les gens aient envie d'y aller. Ensuite il y a tous les mécanismes de gamification et les mécanismes lié à l'utilisation du téléphone mobile. Donc nous, on fait des applications natives, donc ça permet d'envoyer des push notifications, ça permet d'avoir du design sonore, d'avoir le côté effectivement presque jeu à l'intérieur de l'application. Et le troisième point dont on a déjà pas mal parlé aussi, c'est cette partie sociale, de faire des challenges, de faire des battles, d'envoyer en fait des défis à des collaborateurs ou de les mentionner dans des communications. En fait, sur ces trois éléments-là, ça va permettre aux gens d'avoir envie de revenir et de déclencher des automatismes d'apprentissage pour que ça devienne justement régulier et un engagement durable. Voilà.
Juste, il y a quelque chose, nous, avec, donc encore une fois, dans le théâtre, mais aussi, je pense, dans n'importe quel sujet un peu technique, j'aime bien l'idée qu'on puisse réfléchir à toujours pouvoir s'adresser à un enfant de 7-8 ans. Parce que c'est un garçon ou une fille qui est déjà en éveil, qui est curieux, mais il faut prendre le temps de ne pas sauter les étapes. Il est très sensible à tout ce qui va être jeu, il est très sensible aux émotions et au fait de raconter une histoire. Et je pense que sur le côté dénominateur commun, quand on a un sujet très technique, je dis n'importe quoi, mais sur la physique, n'importe quoi, réussir à captiver un enfant de 7-8 ans, c'est gagné parce que tout le monde derrière va suivre. Et en pièce de théâtre, moi c'est pareil, on essaye sur des sujets historiques assez durs, complexes, avec beaucoup de dates, est-ce qu'un enfant de 7-8 ans pourrait s'y intéresser? Et si un enfant de 7-8 ans s'y intéresse, alors tout le monde va s'y intéresser. Voilà.
Oui, Barbara.
Sur la gamification, en fait, je voulais juste partager quelque chose avec vous parce que c'est quelque chose que nous aussi, c'est Sociable, on met en place pour justement faire de l'amplification de contenu, on employé advocacy, etc. Mais quand vous irez voir vos patrons et tout ça, vous parlez de gamification, parfois, c'est pas sérieux ce que vous faites. Non. Donc, en fait, même si en fait, ce sont des codes d'animation qu'on a emprunté des jeux vidéo ou bien des jeux qu'on faisait quand on était enfant. Mais ce n'est pas parce qu'en fait c'est fun que ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, on a des KPI très précis qui peuvent suivre en fait tout l'engagement que ces actions de gamification peuvent engendrer. Donc, ne pensez pas, en fait, ou essayez, en fait, de transmettre à votre hiérarchie le message comme quoi la gamification, c'est important pour des objectifs plus sérieux qui sont l'engagement, la formation, etc. C'est quelque chose de très sérieux.
Et effectivement, pour finir cette table ronde, ma dernière question était évidemment sur comment est-ce qu'on mesure en fait la performance d'une formation. Comment est-ce que, encore une fois, la question a déjà été posée, mais derrière tout ça, comment est-ce qu'on va vendre à son patron son projet de formation? Et on sait que souvent les chiffres ont un impact efficace. Donc comment vous mesurez la performance de vos contenus éducatifs? Ah ben voilà, Rémi va
commencer. Ça sera hors sujet, mais voilà. Enfin, pas hors sujet, mais moi, de mon côté, vraiment, la validation, c'est quand des enfants aiment mes pièces. Parce que partir d'un sujet comme par exemple un peintre du 19e où on va parler de, je sais pas moi, d'impressionnisme ou de la guerre de 100 ans avec les bourguignons face aux gens, un enfant il dit c'est le Moyen-Âge, nul. Et bah, au bout de 10 minutes il est scotché, il est attentif et à la fin il en parle pendant 2 heures avec sa famille, c'est gagné.
Donc quand le spectateur devient promoteur finalement du spectacle. Voilà.
Chez Doctolib, on en a plusieurs des indicateurs qu'on suit. Il y a le premier indicateur, c'est combien de personnes on arrive à atteindre dans nos formations. Donc combien vraiment sont actifs sur leur formation, combien complètent l'intégralité de la formation. Et ensuite, on a des indicateurs qui rejoignent ce que tu dis, Rémi, sur la satisfaction de la formation. Est-ce qu'ils ont apprécié l'expérience? Est-ce qu'ils ont appris des choses? Est-ce que ça a été utile? Et enfin, le dernier, qui est presque le plus difficile à avoir, c'est est-ce qu'il y a eu un transfert dans son quotidien? Est-ce que le collaborateur qui est venu à la formation, il a vraiment changé quelque chose dans son quotidien? Et donc ça prend du temps, c'est la mesure de l'impact qui prend parfois 3 mois, 6 mois, 1 an, et c'est d'où l'intérêt en fait de faire quelque chose de très social pour justement garder cette envie de réussir les challenges et de changer ses routines de travail. Et je dirais que ouais, c'est les 3 éléments qu'on va suivre.
Nous, on utilise l'échelle de Kirkpatrick. Je ne sais pas si c'est un outil qui vous parle, mais c'est effectivement une échelle qui mesure, qui part du niveau de satisfaction et qui va jusqu'au retour sur investissement. Donc, on essaye effectivement d'avoir des indicateurs, donc des KPIs dans le back-office de la solution pour suivre effectivement est-ce que les gens ont été satisfaits des systèmes de sondage, est-ce qu'ils ont appris des choses, est-ce qu'ils ont retenu à chaud et à froid. Après, est-ce qu'ils ont effectivement transposé? Est-ce que les gens qui ont pu observer cette transposition ont vu un impact? Donc, typiquement, le client qui a une conseillère de beauté, par exemple, est-ce qu'il a senti qu'elle avait été formée? On a même fait des études comparatives avec des mystery shopping pour vraiment mesurer ça. Et puis après, il y a le retour sur investissement où là, on a été avec certains clients jusqu'à mesurer effectivement dans des boutiques ou dans des équipes qui ont été formées l'augmentation d'un panier moyen, par exemple, ou d'upsale ou de cross-sale entre des populations formées et non formées. Donc ça, je dirais, c'est la partie très quantitative. Et après, moi, j'aime beaucoup effectivement ce que disait Rémi, c'est la partie qualitative, c'est-à-dire est-ce que la personne s'en souvient 3 mois après, et si elle s'en souvient, c'est parce qu'elle a eu une émotion. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on joue beaucoup sur les leviers de la gamification, de l'humour, de la tonalité décalée ou de l'élégance des contenus, parce que ça va susciter un effet waouh, et les gens disent « Ah oui, cette formation-là, ah ouais, elle était super !» Ils vont peut-être pas savoir raconter ce qu'il y avait dedans, mais ils vont se souvenir qu'elle était super, c'est déjà quelque chose de gagné.
Et après, a aussi un retour en investissement qui n'est pas si direct, mais disons tous les effets collatéraux qu'une formation peut avoir, mais justement de promotion de la marque employeur, d'engagement des collaborateurs, et après de partage aussi sur les réseaux sociaux des compétences ou des expériences qu'ils ont pu vivre grâce à la formation proposée.
Peut-être Tiffaine, si tu veux conclure, mais effectivement, toi, tout à l'heure, tu parlais le fait que vous donniez des badges en fait quand les gens passent des certifications. Ça, j'imagine que c'est un bon élément pour mesurer la notoriété de l'académie et des formations, puisque les gens affichent clairement sur LinkedIn qu'ils ont passé une certification.
En effet, après, bon, j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure, mais nous, clairement, ça va être. On a tous des échelles différentes, mais en soi, le principe, c'est d'être sûr que le contenu il plaît. Donc pour savoir, donc nous on a notre NPS qui est calculé avec les survey monkeys à la fin de certification et impact business évidemment parce que ça fait aussi partie du business model de l'académie, donc le nombre de leads, le nombre de sign-ups et encore une fois impact client existant chez HubSpot, c'est le taux de churn qui va être réduit. Et un aspect dont j'ai pas parlé mais qui est hyper important, c'est qu'en effet nous on demande à nos nouveaux arrivants, new hire, de passer des certifications pour se former à l'outil HubSpot. Si demain vous rejoignez l'entreprise, vous allez passer du temps avec moi à apprendre ce que c'est, les différents hubs, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est les retours qu'on a, l'onboarding et nos clients et nos collaborateurs.
Génial. Et merci beaucoup à tous. Merci.